La marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Nous voici dans l'histoire de France.
Et pas seulement dans l'histoire de France.
Le témoin de ce vendredi, un historien américain en France, Robert Darnton.
Strasbourg, ruissellement de couleurs françaises, des chants, des danses, des gosses qui courent par les rues, flambeaux au poing, des pétards, des fifres, des tambours, des étudiants en monôme bruyant, des balles où l'on danse mal car on est trop serré, des soldats, des musiques, des cris joyeux, une profusion de vie intense. Et aussi, la nuit, dominant la joie populaire, le drapeau. Le drapeau à l'extrême pointe de la flèche de la cathédrale.
Le grand historien américain Robert Darnton est né en 1939. Son père, grand reporter au New York Times, est mort au combat alors qu'il avait 3 ans seulement. Quand, après Oxford, il découvre la France, la guerre est encore toute proche. De Strasbourg à Paris, dans toutes les villes que l'exploration de leurs archives lui font découvrir, il sent sous ses doigts toutes les fibres qui ont relié les Français et les Américains au fil des combats successifs menés ensemble. Cependant, Robert Darnton a aussi rêvé d'une France qui soit le contraire de l'Amérique du général Eisenhower. Une France des cafés et des journaux qui collectionnent les comportements singuliers et les idées émancipatrices. C'est dans une revue réputée marxiste, Les Annales historiques de la Révolution française, que le jeune chercheur publie à 27 ans son premier article « Non, Marat n'a pas été un voleur ». Il s'y fonde sur une lettre inédite. La Révolution, entendue au sens large, sera sa période de dilection et sa méthode sera empirique. L'exploration des massifs d'archives à la recherche des 1000 manières dont se fabrique l'opinion en régime de censure comme de liberté. L'art de la calomnie en France, la poésie, la police et les réseaux de communication à Paris, voici parmi beaucoup d'autres quelques-uns des intitulés des ouvrages de Robert Darnton. S'intéressant aux libelles séditieux comme aux best-sellers, il est devenu peu à peu un grand spécialiste du monde des livres, au point de se voir confier à la fin de sa carrière la direction des bibliothèques de Harvard. Mais le voici qui revient pour un long séjour de plus en France.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Robert Darnton, bienvenue.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Vous êtes redevable à la France de beaucoup d'invitations, mais les premières bourses qui vous permettaient de travailler en France, vous êtes un perpétuel boursier, elles venaient de fonds américains, non ? Ou anglais ?
Anglais. C'était une bourse Rhodes Scholarship et chaque année on choisit toujours 32 étudiants pour étudier à Oxford. Je quittais Oxford toutes les vacances pour venir en France.
Et alors maintenant vous êtes toujours boursier à 77 ans. Vous êtes accueilli à l'Institut des études avancées.
C'est vrai et j'en suis touché et fier.
Alors c'est un endroit où on a un bureau, où on se réunit à 13h pour déjeuner de conserve et où on prend le whisky vers 18h, 19h, oh, entre collègues, chercheurs d'un peu tous les pays.
Oui, whisky, je ne dirais pas, mais j'ai inventé un happy hour pour les autres chercheurs et on se réunit chez moi. Quand je dis chez moi, je veux dire chez Baudelaire, puisque mon bureau se trouve dans l'ancienne chambre à coucher de Baudelaire.
Hôtel de Lauzun, où il a été locataire. Hôtel de Lauzun, c'est donc sur l'île Saint-Louis, quai d'Anjou. C'est un hôtel qui a été construit au milieu du XVIIe siècle par quelqu'un qui doit vous intéresser. Il s'appelait Gruin, il s'est fait appeler Gruin Desbordes, puis Desbordes tout court. En fait, c'était quelqu'un qui s'était enrichi avec la fourniture aux armées au milieu du XVIIe.
Oui, c'était comme tous ces fermiers généraux, ces spéculateurs qui se faisaient riches grâce aux batailles et aux morts des Français sous Louis XIV, c'est
Alors,
vrai.
Il est arrêté pour malversation, le duc de Lauzun achète l'hôtel, il est obligé, le duc de Lauzun, parce qu'il est amoureux de la grande mademoiselle et que Louis XIV s'en méfie, de vivre à moins de 2 lieues de distance du roi. Et ensuite, l'hôtel passe à la marquise de Richelieu, dont Saint-Simon disait « C'est la plus belle femme du monde, sauf que son père lui a cassé les dents de devant pour éloigner les galants. » C'est un drôle d'endroit, l'hôtel de Lauzun.
C'était extraordinaire, c'est hanté de mémoires de toutes sortes de gens.
En 1842, le baron Pichon devient le propriétaire et en 1843, Baudelaire, qui songe déjà aux fleurs du mal, devient locataire. Voici ce qu'était, selon une émission de Jean Montalbetti sur France Culture en 1980, l'hôtel de Lauzun, qui ne portait plus vraiment ce nom, au milieu du 19e siècle.
À ce moment-là, il y avait des remises surtout pour les voitures et des écuries pour les chevaux. Ce que Baudelaire signale surtout, c'était les teinturiers. Les teinturiers.
Il s'appelait hôtel des teinturiers d'ailleurs.
Non, à non, mais ça c'est par dérision, mais ça n'est pas son nom. Et sur la droite se trouvaient les machines, les lessiveuses des teinturiers. Ça sentait très mauvais et ça coulait tant et plus sur les quais. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé ça l'hôtel des teinturiers.
Alors nous allons prendre sous la voûte justement ce petit escalier de service qui mène au troisième étage à l'appartement de Baudelaire.
On arrivait à son logement situé au troisième et correspondant à une mansarde par un escalier de service à rampe de bois. « Cela vous étonne ?» me demandait-il à chaque marche en me regardant comme un inquisiteur, « de voir un escalier. » La chambre carrée, basse de plafond, était entièrement tapissée de papier rouge et noir. Il y avait un divan couvert d'une housse grise. Le lit et au milieu une table carrée. Deux coucous battaient sur le mur. « Cela vous étonne ?» Du tout. J'ai déjà vu cela chez Charles Quint. Baudelaire me fit remarquer que les vitres étaient dépolies, sauf les deux d'en haut. « Pour ne voir que le ciel, » me dit-il.
Daniel Mesguich qui lit un témoignage de Charles Asselineau. « Les vitres d'en haut seulement étaient transparentes pour voir le ciel. »
Ah, je vois à travers ces vitres tous les jours, c'est étonnant. Et je me dis, Baudelaire a dû écrire des poèmes en regardant le ciel ou peut-être l'abside de l'église Saint-Paul. Et moi, j'ai le privilège de profiter de cette même vue, tout en admirant Baudelaire, mais en faisant de l'histoire.
Oui, mais sauf que vous avez entendu, les vitres étaient dépolies. Oui. Lui se privait de la vue. Est-ce pour cela qu'un jour il a appelé un compagnon vitrier qui passait avec les vitres sur le dos, là?
Eh bien, j'ai étudié ce poème en prose qui s'appelle « Le mauvais vitrier ». Il semble que Baudelaire se réveille le matin, il a mal aux cheveux, il entend un bruit dans la rue, c'est un vitrier qui portait des vitres sur son dos, il l'invite à monter, et c'est très étroit, très difficile, le vitrier arrive, Baudelaire demande à voir les vitres, il veut des vitres coloriées, de couleur. Le vitrier n'en a pas, Baudelaire le congédie, et une fois que le vitrier arrive dans la rue, Baudelaire regarde et il jette un pot de fleurs sur son dos en cassant toutes les vitres. Ça, c'est le poème en prose, mais quand je regarde par cette fenêtre, je vois à peine la rue, je crois que c'était une fantaisie.
Vous connaissez bien l'île Saint-Louis, vous, parce que l'île Saint-Louis se tenait un restaurant dont l'histoire a été racontée par Frédéric Vitoux, romancier, académicien qui vit sur le quai non loin de chez Baudelaire. C'était au rendez-vous des mariniers. Et figurez-vous que dans les années d'après la Première Guerre mondiale, alors que l'établissement était très modeste, des gens comme Dos Passos, comme Hemingway, ensuite, venaient manger régulièrement là.
C'est assez remarquable, mais...
Et votre père aurait pu
Il aurait
en
pu,
être.
C'est tout à fait possible.
Il était journaliste au New York Times, il venait souvent à Paris.
Après, pendant la Grande Guerre, il a passé 9 mois dans les tranchées, ce qui, pour un Américain, était exceptionnel. Et après, il a dû passer pas mal de temps à Paris, peut-être qu'il y a mangé.
Au rendez-vous des mariniers, on servait du poisson. J'imagine plutôt de la friture. J'aimerais que vous nous racontiez comment, pour la première fois, vous avez découpé, dans un autre établissement, une truite. C'est tout un art français.
Mon assiette est chaude, hein, brûlante, hein, d'accord. Autrement, ça va refroidir. J'utilise, moi, un couteau à poisson. Et tout simplement, je vais faire une petite incision sur le dos. Là, vous faites attention parce qu'il y a une arête qui est très très dangereuse, surtout pour les jeunes enfants. Alors, si ma truite est trop cuite, je vais avoir du souci pour la décoller, mais autrement, ça a l'air d'aller. À ce niveau-là, c'est facile, on n'a plus qu'à ici inciser ici et à lever l'arête centrale. Voilà, vous avez vu, on panique pas, la truite c'est démontée un petit peu. Ce qu'on peut prendre aussi, c'est une petite rondelle de citron. Oui, elle est cuite, on va dire. Hein. Et je passe ça par à la droite du client, la tête à gauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait quelques taches de sang. Hein.
C'est un film pédagogique de Jean-Michel Tudela et Pascal Dupin. C'est plus facile à dire qu'à faire.
Ah oui, et c'est un art de découper une truite. Eh bien, je raconte, puisque c'était la première fois que j'ai fait des recherches aux archives départementales. Cette fois-là, il s'agissait en fait de la bibliothèque municipale d'Orléans. Et ma femme et moi, nous sommes installés dans un petit restaurant modeste. Oui, et elle a commandé une truite, mais elle vient du Middle West. Elle n'avait jamais vu une truite. Eh bien, la bête est arrivée sur l'assiette et elle ne savait pas quoi faire. Heureusement, un voisin, il a dit « Madame, j'offre à vous démontrer comment découper une truite ». Et ensuite, il nous a expliqué « Ce restaurant, ce n'est pas vraiment la cuisine française ». Pour apprécier la cuisine française, il faut aller chez les Français. Est-ce que, par hasard, vous allez passer par Dijon ? Et en fait, c'était l'arrêt suivant dans mon tour des archives. Il nous a invités à dîner. C'était un marchand de semences, n'est-ce pas, qui connaissait tous les paysans de la Bourgogne et qui collectionnait les petits vins, mais exquis. Et sa femme a dû passer 2 jours à préparer un grand dîner. C'était le délice, c'était une découverte pour nous, une chose étonnante.
Le pays des délices, le pays de Tantale, vous y amenez femmes souvent, enfants parfois aussi?
Oui, dès que j'avais des enfants et encore des bourses pour passer un été, parfois les vacances de Noël à Paris, dans les provinces et surtout en Suisse où j'ai beaucoup cherché, eh bien, on emmenait toute la famille. Nous avons passé une année à Paris où nos 3 enfants ont été dans les écoles du lieu, notamment l'école maternelle qui nous a étonnés parce que notre fille Catherine avait des classes de neige, imaginez-vous.
Vous nous comblez dans notre modestie, là, Robert Danton. Il vous reste à dire que les femmes de France ont quelque chose de particulier ?
Eh bien oui, la beauté, l'intelligence, la culture, un certain air séduisant. Je les aime, je les admire, mais de loin.
Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel avait pourvu des 1000 appâts qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. La navette, tant que je ne savais pas, ne savait plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec le témoin de ce vendredi qui est Robert Darnton, historien américain qui arpente la France depuis plus d'un demi-siècle. Regardez Valérie Aïstaraï, c'est notre réalisatrice. C'est elle qui a choisi, sur vos indications, il me faut du Brassens, cette chanson. Vous qui êtes un spécialiste des libelles séditieux, des publications qui circulent malgré la censure, cette chanson de Brassens, ça vous fait penser à une chanson spirituelle du XVIIIe siècle?
Tout à fait. Bon, j'adore Brassens. Pour moi, c'était une véritable découverte, puisqu'on n'a pas l'équivalent aux États-Unis. Il est spirituel. Et même les mélodies me paraissent parfaites. Alors, je suis tombé sur certains dossiers dans les archives de la Bastille où on parler des chansons de la rue, et cela vers 1749. À cette époque-là, il n'y avait pas de journaux, d'abord. La Gazette de France n'avait rien d'intéressant. Pour s'informer, il fallait écouter aux chansonniers de la rue. Et je suis convaincu que Paris était baigné dans les chansons. Mais il y avait une certaine chanson qui a fait chuter le gouvernement du comte de Maurepas. Tous les contemporains sont d'accord. Pourquoi le gouvernement est-il tombé? À cause des chansons. Il y avait une chanson en particulier, je n'ose pas la chanter.
Mais allez-y, dites au moins les paroles.
Les paroles. Alors, par vos façons nobles et franches, Iris vous enchantez nos cœurs. Sous nos pas, vous semez des fleurs, mais ce sont des fleurs blanches. Eh bien, c'était un jeu de mots, fleurs, fleurs blanches. En fait, il s'agissait d'une maladie vénérienne que Madame de Pompadour a dû transmettre à Louis XV. Et c'était Maurepas qui était censé être l'auteur de cette chanson, et il est congédié et exilé.
Alors, vous découvrez tous ces ressorts de l'opinion publique en fréquentant beaucoup de dépôts d'archives. Vous avez quelques portraits d'archivistes, par exemple d'archivistes femmes?
Eh bien,
des chartistes républicaines, par exemple?
Ah, le directeur de ma thèse, qui était Richard Cobb, très connu comme spécialiste de la Révolution française, fréquentait toutes les archives aussi, et il connaissait une archiviste qui découpait les documents pour en éliminer République française. Elle respectait les textes, mais elle détestait la République à ce point qu'elle se vengeait, pour ainsi dire, en découpant les titres des documents. Moi, je n'ai pas rencontré des gens comme ça, mais j'ai rencontré des archivistes, des bibliothécaires d'une gentillesse extraordinaire.
Par exemple, à Orléans, avant la consommation de la première truite.
Oui, je me suis présenté à la bibliothèque municipale d'Orléans. J'ai frappé à la porte. Elle est ouverte par un homme qui s'appelait le maire. Et je l'ai pris pour le maire d'Orléans. Bon, après quelques minutes, je comprenais qu'il s'agissait d'un bibliothécaire. J'avais du mal à parler français, mais il y avait une certaine confiance qui s'est établie entre nous deux. Et puis, après une pause, il me dit « Vous êtes protestant ?» Alors, pour simplifier, j'ai dit « Oui ». Il m'a répondu « Nous sommes plusieurs ». Et ensuite, il m'a montré les caves où les huguenots se cachaient, etc. Et finalement, il m'a donné le passe-partout de la bibliothèque municipale. Pourquoi? Parce que les protestants doivent travailler. Et il savait qu'après mon dîner, que j'aurais voulu continuer à travailler très tard, dans la nuit. Et les protestants, on peut s'y fier. Et j'ai trouvé des merveilles d'ailleurs dans cette bibliothèque, notamment dans les archives de l'ancien lieutenant de police.
Ah, ça vous intéresse, les archives de police?
J'ai tant d'estime pour la police française, vraiment, j'ai du mal à l'exprimer. Mais par exemple, l'inspecteur Joseph Demery, spécialiste de la librairie, des auteurs, des livres, était un homme qui connaissait vraiment les talents des auteurs. Dans un de ses rapports secrets, il disait qu'un tel écrivait passablement le prose, mais il ne pouvait pas maîtriser les alexandrins. Imaginez-vous un flic de New York qui s'exprime de cette façon. Non, la police française était étonnante, et grâce à cette police, on dispose de renseignements sur les sujets qui me passionnent. L'opinion publique, la circulation des idées, les chansons, les auteurs, les lecteurs, les bruits dans les jardins du Palais Royal, toutes sortes de choses.
Alors, on va peu à peu approcher de Paris avec le grand massif de la Bibliothèque nationale. Il y a les archives manuscrites, il y a à la Bibliothèque nationale le cabinet des manuscrits et puis aussi le grand catalogue des imprimés. Nous sommes dans le film qu'Alain Resnais a consacré à ce qu'il appelle la mémoire du monde et c'est Jacques Duménil qui est le narrateur.
Mémoire exemplaire, la nationale emmagasine tout ce qui s'imprime en France. Pour indiquer qu'un volume est entré à la Bibliothèque nationale, que plus jamais il n'en pourra sortir, on l'estampille. L'ouvrage déposé est d'abord représenté dans le fichier où figurent tous les éditeurs de France. Puis il est inscrit sur le registre des entrées. Sa fiche signalétique est établie sommairement. Après quoi, prisonnier, il attend que vienne le jour du classement. Certains, comme celui-ci, sont inscrits sur un fichier de collection. On situe le livre. On détermine à quelle science il se rattache. On l'identifie. On l'indexe. Électroniquement, on diffuse son signalement.
C'est un véritable océan, la Bibliothèque nationale. C'est ainsi que vous la voyez quand vous débutez vos travaux de recherche. Et vous dites, c'est comme si on essayait de vider la mer avec une boîte à chaussures. Pourquoi oui. Une boîte à chaussures?
Mais j'apportais littéralement des boîtes à chaussures puisque je travaillais avec des fiches. J'étudie des manuscrits, je copie les passages qui me semblent importants, j'entasse les fiches, je les mets dans une boîte à chaussures, j'entasse les boîtes à chaussures et bientôt je suis moi-même prisonnier de mes fiches. La méthode est tellement primitive qu'elle choque nos étudiants d'aujourd'hui qui utilisent les iPads, etc. Mais elle n'était pas si mal que ça.
Oui, mais attendez, ne dites pas ça trop et trop fort. Vous avez dirigé une bibliothèque qui est un peu plus petite peut-être que la Bibliothèque nationale, Harvard.
La Bibliothèque de Harvard, nous avons en fait 73 bibliothèques, 20 millions de livres, c'est énorme, c'est immense.
C'est plus grand que la BNF.
C'est possible.
Le rôle du livre, le monde des livres, c'est le titre d'un de vos livres. Vous avez été une fois à Strasbourg, vous avez été un peu déçu par ce que vous avez trouvé dans les archives. Vous avez passé, c'était prévu, la frontière suisse. Et je suis désolé de le dire pour ceux qui ont été flattés par votre description de la France, c'est à Neuchâtel, en Suisse, que vous avez trouvé le trésor des trésors.
Oui, et d'ailleurs, je ne le cherchais pas. Je suivais une note en bas de page qui indiquait que peut-être qu'il y avait des lettres de Jacques-Pierre Brissot dans cette bibliothèque municipale.
Grand Brissot, leader révolutionnaire.
Exactement. Il va devenir le chef des Girondins, mais à cette époque-là, il publiait ou faisait imprimer ses livres à Neuchâtel. Et j'ai décidé d'écrire une biographie de Brissot. J'étais fasciné puisqu'il était très ami de l'Amérique. Et j'ai trouvé 119 lettres inédites de Brissot avec d'autres lettres qui étaient autant de réponses, mais entourées de 50 000 lettres qui concernaient le monde du livre. Les typographes, les fabricants de papier, les auteurs, bien sûr, surtout les libraires, mais aussi les contrebandiers, c'était une véritable industrie.
Le cœur battant de Neuchâtel, c'était la société de typographie qui diffusait des livres un peu partout en Europe, y compris en France. Alors, le dernier trésor que vous aviez mis de côté depuis longtemps et que vous publiez sous deux formes. Une forme numérique qu'on peut trouver sur votre site. Votre site est accessible par le nôtre. Et une forme imprimée bientôt chez Gallimard. C'est le journal de bord d'un commis voyageur qui est représentant en livre et qui va de ville en ville en France dans les librairies.
C'est exact. J'ai découvert son carnet de voyage, toutes ses lettres, les réponses à ses lettres. En juillet 1778, il est monté à cheval. Il a passé 5 mois à visiter toutes les librairies de la France de l'Est, du Midi, en faisant des rapports. Ce n'est pas uniquement qu'il vendait des livres, mais il espionnait, il faisait des rapports sur l'atmosphère de la librairie, de la demande littéraire, des facultés, des libraires. C'était une sorte de sociologie du livre fait par un simple clerc. Un clerc de cette maison d'édition qui vendait de tout, non seulement leurs livres, mais de tous les livres qui existaient à cette époque-là, puisque c'était des spécialistes dans les contrefaçons.
Et en 1778, quand il tourne en France, quels sont les best-sellers, Robert Danton, les meilleures ventes de 1778?
Bon, sans trop vous choquer, numéro 1, anecdote sur Madame la Comtesse du Barry. C'est drôle, c'est méchant, c'est malin, et cela raconte l'histoire contemporaine d'un point de vue fascinant. Puis après, l'an 2440, c'est une utopie écrite par Louis-Sébastien Mercier. C'était la première des utopies qui existaient dans l'avenir. Une sorte de nouveau jeu d'imagination. Et quel serait le Paris dans l'an 2440? Eh bien, Mercier se met à décrire toute la ville comme il l'a décrit dans un autre best-seller, le tableau de Paris. Mais là, c'est négatif. Et dans le cas de son utopie, il n'y a pas de technologie comme chez nos utopies d'aujourd'hui. C'était un régime gouverné par la volonté générale et la vertu. Donc c'était du rousseauisme populaire très très répandu dans la France pré-révolutionnaire.
Et dernier titre?
C'est l'histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes de Raynal. C'est un livre étonnant, défendu, brûlé par le maître des hautes œuvres au pied de l'escalier du Parlement de Paris. Et cela passait par édition après édition, avec des augmentations, etc. Et nous savons aujourd'hui qu'une grande partie de ce grand ouvrage qui avait parfois, moi j'ai un exemplaire qui a 8 tomes, une grande partie a été écrite par Diderot.
C'était les recommandations de Robert Danton, le commis voyageur Jean-François Favargé. Il recommandait, lui, en 1778, des livres de style très différent, destinés à des publics très divers. Ça a toujours été votre souci aussi dans la rédaction de vos ouvrages d'histoire. Merci infiniment à vous, Robert Danton. Cette émission était réalisé par Valérie Aestaray, Franck Olivard, Frédéric Martin, Marion Philippe-Ilinka Negulesco dans notre équipe et à la technique, David Federman.